Dans le livre des Actes, au chapitre 8, au verset 26, nous voyons un homme qui faisait une démarche spirituelle. Il était parti à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Il ne le connaissait pas, mais de toute façon, c'est facile à comprendre que quelqu'un puisse adorer Dieu alors qu'il ne le connaît pas encore. Pourquoi ? Parce que nous avons la pensée de l'éternité, dont les gens pensent à Dieu. Ils le rejettent de manière expéditive, certains ne le rejettent pas, et ont de temps en temps des pensées qui vont vers Dieu. Donc nous voyons un homme qui va faire 3000 kilomètres pour se rendre à Jérusalem. Actes chapitre 8, verset 26. « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté de Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Quelle affaire, quelle expérience merveilleuse. Nous avons là la preuve que lorsqu'un homme cherche Dieu, Dieu le rencontrera. Vous êtes d'accord avec moi ? Cet homme cherchait Dieu, alors que nous voyons que ce n'est pas la démarche de tous les hommes. On va lire un texte pour voir que peu de gens cherchent Dieu. Dans le psaume 14, si vous voulez bien le suivre avec moi, dans le psaume 14, il est écrit une grande vérité qui se retrouve également dans le Nouveau Testament, ce n'est pas que avant. Ce qui est écrit, on vient de le vérifier dans la lecture de Actes 8. L'Éternel, verset 2, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu regarde. Et il voyait, bien sûr, ce ministre d'Éthiopie qui était parti à Jérusalem, qui n'avait pas rencontré l'Église primitive et qui repartait sans avoir rencontré la grâce que nous venons d'évoquer dans ce cantique. Dieu le voyait, il regarde tous les hommes de la terre. Et si quelqu'un le cherche, on va terminer tout à l'heure avec cette histoire d'acte 8, le Seigneur se laissera trouver. Vous en avez la preuve extraordinaire dans le chapitre que nous venons de lire. Mais voilà, ce n'est pas la démarche de tous. Beaucoup de gens ne cherchent pas Dieu. La suite, on pourrait la lire, ce n'est pas très glorieux, mais c'est quand même écrit, « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » On voit qu'il y a dans la parole de Dieu, dans le cœur de Dieu, cette souffrance de voir que les gens ne le cherchent pas. C'est écrit dans Romains, on peut le lire quand même, parce que c'est intéressant que, quelle que soit la dispensation, là c'était la dispensation de la loi, là nous sommes dans la dispensation de la grâce, Romains chapitre 3, verset 11, le même texte est repris, pour que l'on comprenne bien que ce n'est pas une affaire de dispensation, ce n'est pas une affaire d'époque, ce n'est pas une affaire de climat, ce n'est pas une affaire de géographie, de politique, c'est une question de cœur. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, si j'avais vécu à une autre époque, j'aurais aimé le Seigneur ». On entend ça. « Ah, moi, si j'avais eu une femme chrétienne, j'aurais aimé le Seigneur. Si j'étais né dans une famille chrétienne. » Écoutez, je crois que on cherche Dieu ou on ne le cherche pas. Et quelles que soient les circonstances, on marche avec Dieu ou pas. Voilà. Donc l'appareillement, vous voyez, dans le temps de la grâce, Paul dit ceci, Romains 3, verset 11. « Il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Ça fait peine de lire ça. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Voilà, c'est comme ça. Nous sommes dans un monde où les gens préfèrent les ténèbres à la lumière. Parce que je vais vous dire, les gens qui cherchent Dieu, ils le rencontreront. Vous êtes d'accord avec moi ? Avec le texte qu'on vient de lire, c'est inévitable. Si ce soir vous êtes là, c'est parce que vous êtes dans une démarche sérieuse, sincère, par rapport aux choses de Dieu. Parce qu'on va voir en quelques instants qu'il y a ceux qui ne cherchent pas Dieu et pour qui le verdict final sera terrible. La Bible dit que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont sous la colère de Dieu. Les gens disent, oh ben on verra, on verra. C'est tout vu, c'est tout enseigné. La Bible est formelle, celui qui ne cherche pas Dieu demeure sous la colère de Dieu. On va lire dans Sophonie. Vous savez, Sophonie, c'est les petits prophètes à la fin de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous les lisez de temps en temps, les petits prophètes. Ils sont petits, ce n'est pas parce que l'enseignement est petit que l'enseignement n'est pas important. Et dans Sophonie, au chapitre 1er, au verset 4 jusqu'au verset 6, il est expliqué ce qui arrivera aux gens qui ne cherchent pas Dieu. C'est vrai que c'est terrible, c'est vrai, c'est vrai. Sophonie, chapitre 1er. On va lire le verset 4. « J'étendrai ma main sur Juda, sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal. » Tout ça, c'est des idoles païennes que Dieu ne voulait pas. « Le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par le roi. » Vous voyez les gens qui croyaient en Dieu, mais qui en vérité avaient des idoles dans leur cœur. « Ceux qui se sont détournés de l'Éternel, » regardez bien la fin, « et ceux, vous avez comment vous dans votre Bible, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel. » Si vous résumez la phrase, « j'exterminerai ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas », c'est-à-dire qui ne s'intéressent pas à savoir ce qu'il veut. La Bible dit, ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Allez dans la rue, dites aux gens, vous savez, c'est important de chercher Dieu. Ils vont vous dire, mais de quoi je me mêle ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il vous dit, mais ça ne m'intéresse pas, votre Dieu ne m'intéresse pas, j'en ai pas besoin de votre Dieu, avec tout ce qu'il y a, avec tout ce qui se passe, s'il y avait un Dieu. Je crois que c'est très simpliste de parler comme ça, et ce n'est pas très sérieux. J'exterminerai ceux qui ne recherchent pas Dieu. On pourrait en parler longtemps, je ne pense pas que c'est le plus édifiant, mais il faut bien comprendre une chose, Dieu regarde s'il y a quelqu'un qui le cherche. Deuxièmement, il y a ceux qui cherchent mal. Vous vous rappelez lorsque, le jour de la résurrection, certaines femmes sont arrivées au sépulcre et qu'un ange est intervenu pour leur parler. Et cet ange a dit à ces femmes qui étaient soucieuses d'aller au tombeau pour voir Jésus, même mort, l'ange a dit à ces femmes, « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. » Et là, nous avons un autre problème. Il y a ceux qui ne cherchent pas Dieu, il est clair que c'est quelque chose de terrible, de ne pas vouloir s'occuper de son éternité, de ne pas vouloir rencontrer ce Dieu plein d'amour, de miséricorde, de pardon et de grâce. Mais c'est terrible encore de mal chercher. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Et vous savez, quand on ne cherche pas avec la Bible, quand on ne cherche pas avec la vérité de la parole de Dieu, on cherche parmi les morts. Lorsqu'on cherche au travers des idoles, est-ce qu'on ne cherche pas au travers de la mort ? Les idoles, elles sont mortes ou elles sont vivantes ? La Bible parle des idoles, qu'elles sont mortes. Elles n'ont pas d'œil, elles n'ont pas d'oreille, elles n'entendent pas. Lorsqu'on cherche Dieu au travers du spiritisme, Vous croyez qu'on cherche parmi les vivants ou on cherche parmi la mort? Il y a des gens qui cherchent Dieu par le biais du spiritisme, par le biais du magnétisme. J'ai été étonné cette semaine de rencontrer une femme qui vient ici depuis plusieurs années, qui s'interrogeait pour savoir si tout en étant chrétienne, enfin, elle n'est pas encore baptisée, mais tout en étant dans cette démarche, elle pouvait faire du magnétisme, consulter des magnétiseurs. Je dis, mais ça fait des années que vous fréquentez l'Église et vous cherchez la grâce de Dieu parmi la mort, parce que ces choses-là sont mortes. Elles produisent la mort. La Bible dit que, on va le lire dans Deutéronome chapitre 18, un texte que tous les chrétiens devraient connaître par cœur pour aider les gens qui cherchent dans la mort. Certains pensent qu'il y a une forme de vie, la Bible est catégorique, les textes sont nombreux dans l'Ancien Testament en particulier, où Dieu dit que certaines démarches sont des abominations devant Dieu et produisent la mort. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter, regardez bien, les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ce sont des abominations, ça produit la mort. Les gens cherchent parmi les morts la vie. Et ces gens-là ne sauveront pas leur âme. Quand on cherche la vérité, la vie au travers des idoles, regardez notre texte avec moi dans Ésaïe. Il faut lire ces chapitres. Si vous vous posez des questions sur les idoles, sur l'idolâtrie, est-ce qu'on peut prier des statues? Est-ce qu'on peut prier des statues? Serait-elle en or? Qu'elle soit en or, en bois, en plâtre, en bronze, ça ne change rien. On n'a pas le temps de lire les chapitres qui précèdent. Mais le Seigneur est en train de faire ce qu'on appelle la satire de l'idolâtrie pour expliquer vraiment la folie de l'homme qui se prosterne devant un morceau de bois. Il faut lire, on va lire Ésaïe 44, verset 9. « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité et leurs plus belles œuvres ne servent à quoi elles servent? À rien. Elles les témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qu'est-ce qu'ils fabriquent un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus. » Voyez le résultat. Et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron, il fait une hache, il travaille avec le charbon, il la façonne à coups de marteau, il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque les dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres, des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti, se rassasie, il se chauffe aussi et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole, il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur des charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination, je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare, Et le verdict, il est là, il ne sauvera pas son âme. Et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main. C'est un des textes les plus clairs qui indique que l'idolâtrie, c'est chercher Dieu parmi les morts, c'est chercher la mort. Le résultat sera la mort, il ne sauvera pas son âme. Des fois on se dit, mais quand même, les gens qui adorent des idoles, quand même, ils cherchent Dieu. Oui, oui, ils cherchent Dieu. Non, ils ne cherchent certainement pas Dieu. Parce qu'ils savent très bien qu'une idole, ça ne parle pas. Le plâtre, le fer, les rouvres, les chaînes, ça ne parle pas. Et les gens, quelque part, le savent très bien. Ils n'auront pas de problème avec ce Dieu très silencieux. Mais le résultat, il est là. Il ne sauvera pas son âme. La Bible est catégorique. Ne cherchez pas les vivants parmi les morts. La vie, elle ne se trouve pas dans l'idolâtrie, dans les abominations. Et il faudrait lire les autres passages pour voir combien Dieu est sévère avec ces choses, parce que les gens ne cherchent pas. En vérité, on a l'impression qu'ils cherchent Dieu, mais ce n'est pas vrai. Les gens, Dieu regarde du haut des cieux pour voir s'il y a quelqu'un qui le cherche. Et si cette nuit, dans la ville de Toulouse, il y a quelqu'un qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu va se révéler. Alléluia. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui cherche Dieu, Dieu va se révéler. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager et croire que quand quelqu'un cherche Dieu, eh bien Dieu, il va diriger les circonstances comme cet Éthiopien qui a fait 3000 kilomètres en char sur des routes qui n'étaient certainement pas goudronnées. Sur des routes rocailleuses, cet homme, il allait à Jérusalem, il voulait adorer Dieu, il voulait rencontrer Dieu. Et comme tout, ça fait quand même quelque chose, est-ce qu'il y avait l'église à l'époque? Est-ce qu'il y avait l'église de Jérusalem? Est-ce qu'elle avait déjà démarré? Est-ce qu'il y avait des milliers de chrétiens à Jérusalem? Les 3000 âmes, les 5000 qui sont désignées, est-ce que c'était avant? Eh oui, c'est avant. Il y avait des milliers de chrétiens. Il y avait l'église de Jérusalem. Et bien voyez, malgré le fait qu'il y ait l'assemblée, qu'il y ait l'église et des milliers de chrétiens, il ne l'a pas rencontré. Mais il a su se procurer un exemplaire du livre d'Ésaïe. C'est comme aujourd'hui les chrétiens qui... Il a dû aller au temple. Peut-être il a vu de la religion, des rites, il a vu des trucs religieux, mais il n'a pas rencontré les chrétiens. Il aurait pu, dites-moi, il aurait pu. C'était fort probable, en plein réveil, qu'il rencontre des chrétiens à Jérusalem. Eh bien, voyez, il repartait. Mais cet homme, il n'était pas satisfait. Il n'a pas rencontré des chrétiens, il n'a vu que le rituel, que la religion. Mais voyez, il a dit, il faut que je me procure la parole de Dieu. Il avait dû entendre qu'on pouvait se procurer les rouleaux de la loi. Et bien sûr, c'était le ministre des Finances de l'Éthiopie, donc c'est un homme qui avait des moyens pour se procurer, il savait lire, et voyez, il est reparti, il cherchait Dieu. Il ne cherchait pas Dieu parmi les morts, il cherchait Dieu là où il y a la vie, dans le rouleau du prophète Ésaïe. Et Dieu a dépêché un ange qui a dépêché Philippe, pour qu'il se trouve là, sur le chemin où cet homme était en train, vous savez, dans le char, c'était pas une Mercedes, ça devait bouger un peu, et il avait soif, il aurait pu dire, bon, je le lirai quand j'arriverai chez moi. Non, il avait soif de Dieu, il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu, et Dieu s'est révélé. Vous avez fait penser à votre histoire un peu? Est-ce que vous cherchiez Dieu? Est-ce que vous cherchiez Dieu? Peut-être pas. Justement, il y a un verset qui dit qu'il s'est laissé trouver, même par ceux qui ne le cherchaient pas. Mais quand même, Dieu connaît le cœur de ces personnes-là qui ne le cherchaient pas, mais qui n'étaient pas du tout hostiles à la vérité. Et cet homme, tout ministre qu'il était dans une très grande humilité. Quand Philippe va lui demander, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il aurait pu dire, attends, tu sais qui je suis? T'as vu qui je suis? T'as vu les chevaux devant? T'as vu la voiture? Je suis un ministre. Non? Vous savez, aujourd'hui, vous parleriez à un ministre, parce qu'il faut une révélation, il faut de l'intelligence spirituelle pour comprendre la Bible. Pas une question d'instruction. Et vous avez vu cet homme, quand il répond, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Voyez, Dieu fait grâce aux humbles, qu'ils soient riches ou pas, Dieu fait grâce aux humbles. Et cet homme, il va inviter l'évangéliste à rentrer dans son char, et ensemble, il va lui dire, voilà, je suis en train de lire un passage là, du prophète Ésaïe, mais je ne sais pas si, de qui il parle. Il parle de lui, il parle de quelqu'un d'autre. Et Jésus, bien sûr, va lui expliquer que ce passage parlait de l'œuvre de Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui est mort sur le bois de la croix pour nous pardonner de nos péchés, qui a été maltraité, qui a été méprisé, qui a été vraiment amené à une grande souffrance. Et cet homme, il avait déjà le cœur préparé. Cette démarche, c'était pas rien. Ces 3000 kilomètres, ces 6000 kilomètres aller-retour, ça représentait quelque chose dans le cœur de cet homme. Et Dieu ne l'a pas laissé repartir dans son incrédulité, ou pas dans son ignorance. Il s'est mis sur son chemin. Heureux celui qui me cherche de tout son cœur. C'est écrit. Le Seigneur le dit de plusieurs manières dans les évangiles ou dans la parole de Dieu en entier. Il dit, David dira dans un psaume, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel. Il ne cherchait pas la bénédiction. On en parlait encore cet après-midi. Ce n'est pas une question de je veux une bénédiction. Non, cet homme, il ne cherchait pas la bénédiction. Il l'avait, il était ministre. Il avait la bénédiction matérielle. Ce n'est pas parce qu'on est aisé matériellement qu'on est béni. Je ne pense pas. Mais humainement parlant, la bénédiction matérielle, il l'avait déjà obtenue. J'ai lu un témoignage justement cette semaine, il y a longtemps, je ne sais pas qui c'était, le président des États-Unis à l'époque. Il est rentré dans une classe d'enfants, et bien sûr, il y avait ses gardes du corps, etc. Il est rentré dans la classe et il a dit, qui aimerait devenir président des États-Unis? Et tous les enfants ont levé la main. Et puis il a posé une autre question, il a dit, qui aimerait devenir un enfant? Et il a levé la main. C'est une histoire vraie. Tout ça pour dire quoi? En fin de compte que des fois on peut rêver de certaines choses et ça ne correspond pas à grand chose. Cet homme, il avait la bénédiction matérielle, mais il voulait la grande bénédiction de connaître Dieu. Parce que tant qu'on ne connaît pas Dieu, on peut avoir été sous la grâce de bénédiction spirituelle, on ne connaît pas la bénédiction. Il y a des gens qui ont été guéris, qui ont été délivrés, qui ont fait des expériences magnifiques et qui sont toujours malheureux parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu. Et la Bible nous demande de le chercher à lui. Surtout qu'il faut le chercher pendant qu'il se trouve. Dieu a voulu, c'est écrit dans le livre des Actes, c'est le sermon à Athènes de Paul, il dit « Dieu a voulu que tous les hommes le cherchent ». Dieu veut que les hommes le cherchent. Bien sûr que Dieu ne nous forcera pas. Bien sûr que Dieu ne vous obligera pas à lire la Bible. Dieu ne vous obligera pas à aller dans une église. Mais vous pouvez faire votre démarche. Et c'est dans Jérémie qu'il dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et de tout son cœur, c'est exactement le témoignage de cet eunuque éthiopien qui il avait fait toute cette distance. Ce n'est pas la reine qui l'avait envoyé, c'était lui qui avait été. De lui-même, pendant ses congés, il avait dit, voilà, j'irai à Jérusalem. Avait-il entendu des témoignages? Je ne sais pas. En tous les cas, une chose est certaine, il voulait adorer le Seigneur. Il n'était pas venu à Jérusalem pour avoir une promotion. Vous savez, il y a des gens, je le vois moi, des gens, ils viennent prier parce que je voudrais gagner davantage. Moi, nous, on les ramène à l'essentiel quand même. On dit, écoutez, peut-être, ça serait peut-être mieux que vous demandiez à Dieu le pardon de vos péchés. Non, je voudrais si. Bon. On essaie quand même de prier d'une manière beaucoup plus intelligente. Cet homme, il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Ce soir, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu, mais peut-être que vous dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher le Seigneur, de chercher à le connaître, de chercher sa présence. Et croyez-moi, de la même manière que Dieu a délégué un ange pour s'occuper de cet homme, je ne sais pas ce que Dieu fera. Mais laissez-moi vous dire que si nous continuons à prier, si nous continuons à intercéder, je suis persuadé que dans la ville de Toulouse, des hommes et des femmes se mettront à chercher Dieu. Vous ne le croyez pas? Que cette nuit, quelqu'un peut être travaillé pour et qu'il soit là dimanche matin? Parce qu'il ne pourra pas faire autrement. Je me souviens de cette femme qui était venue. Elle me dit, voilà, ce matin, je me suis réveillé. Il fallait absolument que je mette ma vie en règle avec Dieu. Toute sa vie, elle ne s'en est pas occupée. Et un matin, elle s'est réveillée. Il fallait qu'elle soit en règle avec Dieu. Elle est venue pendant quelque temps, puis après elle est repartie. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais ça m'a encouragé en même temps. Et je me suis dit, oui, si l'Église prie, si l'Église intercède dans une ville, des hommes et des femmes peuvent un jour se réveiller avec cette conviction qu'il faut qu'ils se préparent à rencontrer Dieu et à obtenir le pardon de leurs péchés. Zachée, on en a entendu parler il y a 8 jours, Zachée cherchait à voir qui était Jésus, et quand Jésus est arrivé au bon endroit, il s'est arrêté. Il ne pouvait pas faire autrement, puisqu'il se laisse trouver. Demandez, a dit Jésus, demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Il y a 3 démarches. Le fait de demander, le fait de chercher, et le fait de frapper. Il faut arriver jusqu'à la maison que l'on veut trouver. Il ne faut pas juste dire, oui, moi j'ai demandé, ça. Oui, il n'est pas dit demander, il est dit demander, chercher et frapper. Ça veut dire qu'il faut une démarche qui aille jusqu'au bout. Ils ont cherché, oui, j'ai prié Dieu. Je racontais le témoignage cet après-midi des gens qui ont dit, moi je ne croirais pas en Dieu. Je ne croirais pas en Dieu parce que j'ai prié et Dieu ne m'a pas exaucé. Je parlais de cet homme qui s'est pointé un jour à une conférence chrétienne, philosophique. C'était une conférence où on parlait de Dieu, de l'évolution. Enfin, tout le monde était mélangé là-dedans. Et puis il y a un gars qui est arrivé et qui a dit, moi je vais vous prouver que Dieu n'existe pas. Donnez-moi 1 minute. Alors, le gars, il dit, voilà, il se met au micro, il dit, voilà, j'ai demandé à Dieu qu'il me tue. Je lui donne 1 minute. Et si je ne suis pas mort dans 1 minute, vous aurez la preuve que Dieu n'existe pas. Alors, ils ont attendu 1 minute. Tout le monde en silence de mort pendant 1 minute. Et voilà. Et vous voyez, Dieu n'existe pas. Je ne suis pas mort. Et il y avait un pasteur dans l'auditoire qui s'est arrangé pour aller voir, je crois, un gars de la sécurité ou un gendarme. Et il lui a dit, écoutez, prêtez-moi votre pistolet. C'est une histoire vraie. Il l'a fait sérieusement, c'était conduit ça. Prêtez-moi votre pistolet. Le gendarme, connaissant le pasteur, avait confiance et tout. Et le pasteur est monté sur l'estrade et il a dit au gars qui venait de prouver que Dieu n'existait pas, il a dit au gars, voilà, je vous donne mon pistolet. Je vous donne 1 minute pour me tuer. Et le gars, il est resté là avec son pistolet. Et au bout d'une minute, le pasteur, il a dit devant tout le monde, eh bien, nous avons la preuve que cet homme n'existe pas. Et il y a une femme dans l'auditoire qui a dit, nous, les fous, on ne les tue pas, on les soigne. Mais c'est une histoire vraie. C'est pour vous montrer la bêtise des gens. Vous voyez, si Dieu avait pris au mot tous ces gens, quelle misère. Je crois que le Seigneur, il nous connaît. Il est infiniment patient. J'espère que cet homme a changé d'avis, a changé son fusil d'épaule. J'espère que cet homme a pu comprendre combien il était stupide. Oui, les gens ne sont pas intelligents lorsqu'ils parlent de cette manière. Mais dès que quelqu'un cherche Dieu, eh bien Dieu se laisse trouver. Alors juste quelques bénédictions pour ceux qui le cherchent. Parce que quand même, c'est très intéressant de voir dans la Bible tous les textes qui nous parlent de la bénédiction pour ceux qui le cherchent. Alors, il ne faut pas chercher la bénédiction, mais voilà, c'est ça la conséquence. Lorsqu'un homme cherche Dieu, il y a des bénédictions. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Il ne faut pas chercher le bien, mais il faut chercher le Seigneur. Et ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Que ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. Vous avez remarqué combien les chrétiens les plus pieux sont les chrétiens les plus joyeux. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué? Non? Les chrétiens qui ont une véritable piété, je ne parle pas des chrétiens de nom, des gens qui disent, qui prient juste comme ça, du bout des lèvres, ou qui récitent des prières. Ceux qui cherchent l'Éternel sont dans l'allégresse. C'est pour ça qu'il est dit, heureux ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Et je crois que lorsque on cherche Dieu en lisant la parole, on ne comprend pas tout au niveau humain, au niveau intellectuel, au niveau du monde. Mais il y a plein de choses spirituelles que l'on comprend lorsqu'on lit la parole de Dieu. C'est étonnant le nombre de personnes qui, dès qu'elles se mettent à chercher Dieu, deviennent vraiment intelligentes. Je ne parle pas de l'instruction des choses de la terre. Je parle d'une intelligence spirituelle. Plus loin, il est dit, L'Éternel a de la bonté pour ceux qui le cherchent. Combien dans un monde de brutes, c'est bien d'être au bénéfice de la bonté du Seigneur. C'est pas vrai? Et je termine avec ce verset qu'on va lire ensemble, dans Hébreux chapitre 11. Alors là, c'est un peu le top niveau, mais c'est quand même une grande vérité. Il nous est dit dans ce verset deux choses. La foi, c'est la confiance en Dieu, c'est-à-dire. Il nous est dit que sans la foi, Hébreux 11, 6, il est impossible de lui être agréable. Sans la confiance. Faites-vous confiance à Dieu? Faites-vous confiance à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Cette semaine, on m'a posé une question sur ce verset. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous rendez compte? J'ai lu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais je dis, mais c'est extraordinaire. Vous rendez compte, si Dieu avait dit, si vous voulez vous approcher de moi, il vous faut connaître le Nouveau Testament par cœur. Voilà, ça deviendrait compliqué. Pour s'approcher de Dieu, il faut juste croire qu'il existe. Non mais franchement, c'est pas simple. Vous le voyez comme moi ou non? Moi je trouve que c'est bien. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui prient. C'est ça que vous avez dans votre Bible? Eh ouais. Il y a des gens qui disent, ouais, je prie. Oui, ils prient. Ils parlent, ils ne savent pas s'ils parlent au plafond ou s'ils parlent au deuxième étage. Ils n'en savent rien. Je ne parle pas des gens qui prient. Ce texte nous parle des gens qui le cherchent. Et lorsqu'on cherche Dieu, voyez, on vient de lire ce verset, tiens, côté pratique, voilà. Chercher Dieu, c'est dire, voilà, comment il faut être agréable à Dieu? Apprendre à lui faire confiance, est-il digne de confiance? Oui. Pour m'approcher de toi, qu'est-ce que tu dis? Il faut tout juste que je croie que tu existes. Tu ne peux pas demander moins. Je veux dire, bon, moins, ça va être difficile. Il ne peut pas demander plus simple, juste croire qu'il existe. Quelle bénédiction. Et quand Dieu dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, appliquez-vous, non pas à le prier pour prier, à aller à l'église pour aller à l'église, à lire la Bible pour lire la Bible, mais au travers de ces trois démarches, à le chercher, et vous verrez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Fermons les yeux quelques instants. Oui, cet eunuque, ce ministre, a été béni. Il cherchait Dieu, et Dieu s'est laissé trouver. Ceux qui ne le cherchent pas ne le rencontreront pas. Ceux qui le cherchent parmi les morts rencontreront la mort. Mais ceux qui cherchent Jésus par sa parole découvriront la vie éternelle. Oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Seigneur notre Père, nous sommes sous ton regard. Tu nous as laissé ta parole pour sauver nos âmes. Et tu vois dans cette ville de Toulouse les multitudes qui sont aveuglées parce qu'ils te cherchent parmi les morts, parmi les idoles. Seigneur, aie pitié d'eux et amène-les à te chercher au travers de ta parole. Tu vois ces dizaines, même ces centaines de milliers d'évangiles, de Bibles, de Nouveau Testament qui ont été distribués dans cette ville de Toulouse. Que les gens te cherchent par ta parole. S'il te plaît, Seigneur, que dans cette ville de Toulouse, des hommes et des femmes se réveillent et ne cessent d'obtenir la paix, Seigneur, en te cherchant. Oui, nous te prions, Seigneur, pour que cette ville de Toulouse soit visitée par ton esprit. Et que des hommes et des femmes te cherchent comme nous venons de le partager. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni.